cielo brillerà. La povertà non finirà, ma oh, ma oh. La guerra sempre ci sarà, ma oh, ma oh. Ma poi la storia ci dirà che tutto uguale resterà, ma oh, ma oh. Ci sarà sempre chi saprà, ma oh, ma oh. Cogliere un fiore più di te, ma oh, ma oh.
Guarda il sole nascente, quando l'entrata
l'imperialismo non sempre servirà. La gente morire dovrà, perché la terra lo stesso girerà, per sempre il sole nel cielo brillerà. La povertà non finirà, ma oh, ma oh. La guerra sempre ci sarà, ma oh, ma oh. Ma poi la storia ci dirà.
سام الحمرا للرمس برا الحسن في بوريم بفزيث كنسر في سانتا كلارا كوماندون بيتشي جيفارا
Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Oui, il faut arrêter de se faire exploiter. Là.
Ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, mes parents sont rentrés.
Bonsoir, vous êtes au 102.2 Radio Canu, on est le 6 mars et on est au Canu Info du lundi.
Alors aujourd'hui à l'international, on va vous parler de la crise humanitaire au Zimbabwe. Ensuite, on ira analyser la crise entre la Turquie d'Erdogan et l'Allemagne de Merkel. Puis, encore une fois, on ira regarder ce qui se passe au Soudan du Sud, qui est en famine, et également en Hongrie, où le collectif anti-JO se mue en parti politique. On ira évidemment à cracher un peu sur Trump, avant de passer au national, et de parler de François Fictif, ainsi que de la manif anti-corruption qu'il a accompagnée. Ensuite, on parlera de Denis Baupin, l'agresseur sexuel, puis de l'arrêté municipal de Calais pour cesser la distribution de repas aux migrants. Au niveau local, on parlera d'une petite grève dans un collège de Vénissieux, et on aura ensuite le plaisir d'accueillir Tony de l'Observatoire de l'Armement pour nous parler de l'industrie et de la vente d'armement aujourd'hui. On finira par le traditionnel agenda.
Et donc c'est parti, on commence à l'international par cette crise humanitaire au Zimbabwe. Ce samedi 4 décembre, le Zimbabwe a lancé un appel international à l'aide financière et demande au minimum 100 millions de dollars, ce qui est une somme très conséquente. En effet, depuis décembre 2016, le pays est durement touché par de graves inondations, des pluies torrentielles. À la date d'hier, le 5 mars, il y a au moins 246 morts, des maisons détruites, des routes endommagées, 2000 personnes qui se retrouvent sans abri, 74 écoles détruites, 70 barrages qui ont débordé. Après une année de très forte sécheresse l'année dernière, qui a détruit toutes les récoltes et provoqué une famine touchant 4 millions de personnes, ce sont donc les inondations aujourd'hui qui touchent le peuple du Zimbabwe. Le Zimbabwe, pour information ou rappel, c'est une ancienne colonie portugaise puis britannique qui a été indépendante en 1980 et c'est très tard. Elle est aujourd'hui dirigée par un brave homme de 93 ans qui a mis en place une dictature donc depuis 1980. Il a mis en échec par une répression systématique les mouvements de contestation, dont le dernier exemple en date, c'est l'été dernier où un puissant mouvement de rue, des grèves, des manifestations, des émeutes... alliés à plusieurs parties de l'opposition, s'était faite mater en quelques semaines. Alors le Zimbabwe est actuellement dans une très grave crise économique et politique, et notamment économique, puisque l'une des raisons principales, c'est la corruption et le train de vie du clan Mugabe. Dernier exemple en date, la célébration de son anniversaire ce 21 février dernier, comme tous les ans depuis la fin des années 80, sauf que cette année, la modique somme de cette célébration pour la fastueuse fête, c'était 2,5 millions de dollars. Alors Mugabe, increvable, compte bien se représenter en 2018, et même s'il meurt, oui, son épouse Grace, a déclaré qu'il pourrait s'y présenter et la remporter, même s'il devait décéder avant le scrutin. Je cite cette Grace, « Vous verrez les gens voter pour le cadavre de Mugabe, juste pour montrer à quel point ils aiment leur président ». Alors effectivement, corruption à tous les niveaux, exactions systématiques de la police et de l'armée, élections truquées, dictature sanguinaire, une espérance de vie de 43 ans pour la population due à la pauvreté, au ravage du sida, aux famines, aux morts et aux régimes politiques et donc aux catastrophes naturelles. Oui, le peuple du Zimbabwe aime son président. C'est d'ailleurs probablement... Nous aussi, tout le monde l'aime. C'est probablement pour cette raison que Grace Mugabe, 51 ans, une petite jeune, occupe un rôle de plus en plus important sur la scène politique du pays et est plus que soupçonnée de vouloir prendre la succession de son mari, mais elle le nie. Et nous, on la croit, évidemment. Et en attendant, la population du Zimbabwe se meurt et subit la dictature de Mugabe.
Alors, on va aborder maintenant la crise entre l'Allemagne et la Turquie.
Alors... Allumer les micros, ça marche encore mieux le micro allumé, il paraît. Donc depuis 70 ans, ils nous observent. Dans l'ombre de la face cachée de la lune, les nazis se préparent à l'attaque finale. En 2017, le mal absolu renaît. Cette fois-ci, la guerre contre l'envahisseur sera totale. Donc cet extrait pourrait donc résumer le discours d'Erdogan au sujet de l'Allemagne contemporaine. Heureusement pour nous, il ne s'agit simplement que du résumé d'Aaron Sky, film de SF de qualité discutable, mais bien marrant et, bon, et un très bon nanar. Ce dimanche, le président turc s'est donc permis cette dangereuse saillie à l'adresse de l'Allemagne. Vos pratiques ne sont pas différentes de celles des nazis. Donc petit retour dans la réalité de ce malade mental pour essayer de comprendre d'où ça sort. En fait, depuis quelques jours et quelques semaines, un certain nombre de meetings ont été organisés dans différentes villes allemandes pour pour faire campagne pour le oui à un référendum que ce président a mis en place donc en Turquie, qui devrait avoir lieu dans quelques mois. Ce référendum servirait à quoi? Servirait tout simplement, comme dans pas mal d'autres dictatures qu'il y a à travers le monde, à lui donner les pleins pouvoirs. Donc pour voir, pour que tout le monde comprenne un peu, on va essayer de voir qui est Erdogan et qui est la situation entre le rapport entre l'Allemagne et la Turquie. En fait, en Allemagne, il existe une très très forte histoire d'immigration entre l'Allemagne et la Turquie, avec plusieurs millions de personnes, dont à l'heure actuelle plus d'1,4 million qui ont un droit de vote qui leur permettrait d'influencer ce référendum. D'où en fait cette volonté du gouvernement de multiplier les référendums pour essayer d'obtenir un véritable plébiscite. Mais donc, qui est donc cet Erdogan qui se permet en fait de juger l'Allemagne de telle façon ? Erdogan, en fait, c'est une sorte de président dictateur turc qui est représentant du parti majoritaire de l'AKP, une sorte de fou de Dieu qui souhaite s'en rapprocher en obtenant l'onction divine par la voie des urnes. Ce charmant personnage, religieux convaincu, qui déconstruit pan par pan la laïcité d'Atatürk et aussi, de façon très publique, un grand misogyne. Il s'est permis d'affirmer que le Coran l'appuie, que les femmes ne pouvaient être considérées comme les égales des hommes, et déclare que selon l'islam, le rôle des femmes dans la société est de faire des enfants. Il affirme aussi que les féministes ne peuvent pas le comprendre parce qu'elles n'acceptent pas l'idée même de la maternité. Donc c'est sûr, ça va pas aider. Pour le qualifier, pour mieux le comprendre, c'est aussi un farouche opposant à l'autodétermination du peuple kurde, qui n'hésite pas à réprimer dans le sang. Il est responsable des milliers d'arrestations des fonctionnaires progressistes suite à l'échec du pseudo-coup d'État en 2016. Arrestations qui se vont bientôt conduire à des procès, mais aussi à de très nombreuses actes de torture qui ont été référencées et à une véritable volonté de la remise en place de la peine de mort. Il est connu pour être un des plus grands museleurs de la presse libre en Turquie, avec en simplement 9 mois entre juin 2014 et avril 2015, de plus de 2000 procès contre des journalistes qui auraient eu le culot de l'insulter. C'est aussi dont ce grand homme et le grand défenseur des libertés a ainsi continué. Il explique que si je le veux, je viendrai en Allemagne. Si vous m'arrêtez à la porte et ne me laissez pas parler, je mettrai le monde sans dessous dessous. On peut donc espérer que l'Allemagne, malgré ses intérêts économiques évidents et géostratégiques, continue à mener cette politique qui évitera en fait la mise en place d'un nouveau dictateur.
Et on repart en Afrique. Donc on va aller en Afrique de l'Est où il y a urgence. État de famine déclaré le 20 février dernier au Soudan du Sud, et pour l'ONU, l'urgence est absolue. La faim frappe près de la moitié de la population, soit 5 millions de personnes. Les rapports font état d'une situation de MAG, malnutrition aiguë globale, qui dépasse largement tous les seuils d'urgence. Antonio Guterres, le nouveau secrétaire général de l'ONU, lance un appel à l'aide. Les besoins sont évalués à un peu plus de 4 milliards de dollars, et pour le moment, la communauté internationale peine à lever des fonds. La situation actuelle des Sud-Soudanais est la pire qu'ils aient rencontrée depuis le début du conflit armé en 2013. En février, un rapport confidentiel de l'ONU avertit que la guerre au Soudan du Sud a atteint des proportions catastrophiques pour les civils, que l'emprise des milices risque de devenir incontrôlable et d'alimenter les combats pour de nombreuses années. Il ajoute que les civils fuient en nombre record et que le risque d'atrocités de masse est réel. Avant ça, en décembre 2016, des experts de l'ONU avaient fait état d'un nettoyage ethnique au Soudan du Sud. Un conseiller spécial de l'ONU sur la prévention du génocide avait affirmé avoir vu tous les signes qui montrent que la haine ethnique et le ciblage des civils peuvent déboucher sur un génocide. Alors, pour rappel, le Soudan du Sud est indépendant depuis 2011. C'est un pays très jeune, donc, et aussi un pays très riche en ressources pétrolières. L'indépendance, elle a été gagnée au prix d'une guerre de 22 ans contre les autorités soudanaises, conduite par M. Omar el-Bashir, président soudanais peu recommandable. Je rappelle qu'il est sous le coup de 2 mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale pour génocide et crimes contre l'humanité au Darfour. Mais les deux chefs de guerre qui ont mené la lutte pour la libération, Salva Kiir et Riek Machar, se disputent le pouvoir. Et fin 2013, leur opposition, elle plonge le pays dans une guerre civile. Et l'affrontement politique se double d'un affrontement ethnique entre les Dinka, l'ethnie de Kiir, et les Nuer, ethnie de Machar. Cette guerre, elle a déjà fait des dizaines de milliers de morts, plus de 2,5 millions de déplacés. Elle a entraîné l'effondrement du système économique et du système de santé. Les routes d'approvisionnement sont coupées. Les denrées, les produits alimentaires de base sont devenus hors de prix. 800% d'inflation sur un an au Soudan du Sud. Les cultures ne sont plus semées et on arrive à une pénurie alimentaire de masse. Et cette catastrophe qui frappe aujourd'hui le Soudan du Sud, elle menace plusieurs autres pays, la Somalie, le Nigeria, le Yémen, l'Éthiopie, l'Ouganda, Djibouti, le Kenya et la Tanzanie. Plus de 20 millions de personnes qui sont touchées. Une famine sans précédent depuis très très longtemps. Conséquence des sécheresses à répétition que le réchauffement climatique aggrave, mais surtout conséquence des conflits armés qui changent le manque d'eau en désastre alimentaire. Et on se demande comment les grands États exportateurs d'armes osent se féliciter de leurs gros contrats de vente à certains de ces pays, mais on va en reparler ce soir.
Un peu plus proche d'ici, en Europe de l'Est, en Hongrie, le mouvement créé pour contrer les Jeux Olympiques à Budapest se transforme en parti politique. Et oui, donc déjà la première nouvelle pour la plupart des gens qui nous écoutent, c'est que peut-être que Budapest était en liste pour accueillir les Jeux Olympiques de 2024. Mais plus maintenant, c'est fini.
C'est Paris.
Ou Los Angeles, je crois. En effet, sous pression, le maire de Budapest, le très conservateur István Tarlós, a officiellement dû retirer Budapest de la candidature pour les JO. Plusieurs mouvements se sont unis contre cette candidature, considérée comme générant des dépenses excessives et des possibilités de corruption énormes. C'est probablement ce qui serait arrivé quand on voit les dépenses que les JO ont générées ailleurs, notamment au Brésil récemment, aux dépens de la population locale, et quand on sait que l'indice de corruption de la Hongrie ne fait qu'augmenter au fur et à mesure des années, selon des ONG spécialisées. Bon. Qui s'est mobilisé ? Déjà, le parti du chien à deux queues, qui est dans le paysage politique depuis plus de 10 ans. C'est un parti qui était à la base un parti parodique, sans prétention aux élections, mais qui, vu le succès de certaines de ses campagnes, ils ont notamment promis vie éternelle et bière gratuite. Donc bon, ça se comprend. Et donc après ça, il est devenu un parti...
La bière gratuite, j'y crois pas trop.
Ça, c'est du programme.
Donc il est devenu un parti officiel avec ce programme en 2014. Et en 2016, ils ont participé à l'organisation... Enfin, ils ont appelé à voter nul au référendum du gouvernement contre l'accueil des réfugiés, en faisant de fait annuler le référendum, en fait. Leur campagne, une des devises de leur campagne, c'était « à question con, réponse con ». Voilà. À ce mouvement un peu loufoque, s'est ajouté un groupe nouvellement formé, Momentum, créé spécifiquement contre les Jeux Olympiques. Ainsi, ces deux mouvements ont réussi à proposer un référendum unissant un quart de million de signatures, sur une population de 9 millions, ça fait quand même pas mal, pour l'organisation d'un référendum. Cela a suffi au Premier ministre Viktor Orbán pour imposer à la ville de Budapest de retirer sa candidature complètement. Fort de son succès, le mouvement Momentum s'est constitué en parti officiellement samedi dernier, le 4 mars. Le parti a aussi élu son leader, András Fekete-Győr, qui a seulement 28 ans. Et c'est un bon exemple de ceux qui constituent le parti et ses promesses. Des jeunes très diplômés qui veulent changer la politique en Hongrie, dépasser le clivage gauche-droite. C'est en fait un parti...
Emmanuel Macron.
Un parti relativement progressiste, mais bon, c'est pas très difficile en Hongrie. Hein. Donc c'est-à-dire plutôt pour donner plus de droits aux homosexuels, pour la dépénalisation des drogues douces, mais par contre ouvertement pro-mondialisation et très libéral économiquement.
Cohn-Bendit aussi. Cohn-Bendit aussi a dit exactement la même chose, c'est assez magique ouais. Aujourd'hui. Quoi.
Macron aussi.
Ouais, mais ouais, non, mais c'est grave. Quoi, c'est...
Ah oui, mais ils sont plutôt à la mode. Plutôt à la mode.
Ouais. On pourrait aller acheter nos pizzas dimanche, c'est génial.
On va liquider nos camarades, on est désolé.
Il est déjà en train de casser des cailloux en Sibérie.
Voilà.
Donc pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait de leur programme, donc libéral mais progressiste, pour les élections législatives qui ont lieu en 2018, donc c'est proche. Et attention, je crois bien qu'ils sont en marche.
Tu te rends compte de ce que tu dis quand même, libéral mais progressiste.
On n'est pas une contradiction près dans Radio Canu. Mais pour continuer dans la catégorie des gens qui sont en marche et qui vont sûrement continuer un jour très rapidement en fait par se prendre des murs, on a une petite brève des États-Unis avec notre cher grand leader du monde, Trump, qui continue à tromper son monde et qui devient de plus en plus paranoïaque, voire conspirationniste. Attention, de plus en plus conspirationniste.
Il te régale,
hein. Ah non, mais attends, attention, ça fait 6 mois qu'on la prépare celle-ci. Non, mais dans le dernier délire de cette semaine, qui est quand même assez intéressant pour comprendre la pseudo-psychologie de ce personnage, c'est qu'il a donc quand même publiquement accusé en fait Barack Obama de l'avoir mis sur écoute, d'avoir mis notamment à Trump Tower sur écoute pendant la campagne officielle, sachant quand même que aux dernières nouvelles, il lui donne ça, mais sans aucune preuve. En fait. Donc en fait c'est juste des suspicions, il balance ça, il demande officiellement que le Congrès ouvre une enquête par rapport à ça. Donc on attend la suite, on va peut-être un nouveau Watergate va sortir, sachant que logiquement c'est pas très logique qu'il l'ait mis sous écoute et qu'il n'ait pas utilisé pour le saborder, mais c'est un autre débat. On verra bien ce que l'avenir nous réserve.
On est toujours sur Radio Canu, 102.2 et on est nombreux ce soir.
La plus rebelle des radios.
Ah oui, c'est vrai.
Notre vente.
On passe au national.
La plus libérale des radios.
Mais progressiste.
Ouais. Alors de mon côté, hier, j'ai regardé la télé, voilà, j'ai vu un spectacle fascinant. Et à ce niveau-là, ce fut du scapin. Alors bon, du scapin low cost, hein, du brigel de bas étage. Mais quelle frénésie, quelle ardeur, quelle inventivité. Tel que vous me voyez ici, jeune Trublion, de l'information locale, je suis un mangeur de théâtre, un avaleur de planches et de réalité amplifiée. Aucune quinzaine ne s'épuise sans une plongée délicieuse de mon être dans la mise en abîme trépidante de la scène. Quel plaisir d'être embarqué par une vision, quel bonheur de sentir son esprit crocheté, tiré aux épaules par un trait grossi du monde, par une réalité boursouflée d'imaginaire. Les comédiens, comédiennes me fascinent, je dois bien l'avouer. Cette superbe aptitude à la métamorphose, cette capacité grandiose de pouvoir passer dans l'espace réduit d'une semaine d'un tragique roi de Pologne au grelot rieur d'un lutin de Noël. Cette puissance de la fable heureuse, du mensonge complice, n'ayant pour seule ambition que l'évasion, l'envol des esprits embarqués, le slalom des émotions au gré des rouages et des rebondissements du récit. Cette semaine, la vie politique nous a craché à nouveau son théâtre d'images. Après le vaudeville familial, sa femme, ses emplois fictifs, après les portes qui claquent à l'Assemblée nationale et dans les clans verrouillés du Parti républicain, la pièce s'est soudainement parée de vibrations tragiques. Un héros assassiné, presque moribond. Le Tartuffe de la probité, le sourcil grave et broussailleux, a pointé avec emphase les juges, la justice, au mépris de cet équilibre censé composer le socle du fonctionnement constitutionnel. L'homme, blessé par ses chimères, a dû sentir sa maladresse et son excès de passion, car trois jours et quelques abandons du lieutenant plus tard, un artifice remplaçait l'autre. La mise en scène fut sublime. Le Trocadéro, scène en surplomb, et les jupes de la tour Eiffel en toile de fond. Il fallait du lourd pour contrer l'hémorragie, du vaste, de l'indiscutable. Alors, comme d'habitude, on a dégainé la France. Comme d'habitude, on a brandi les portiques luisants de la nation. Comme d'habitude, on a exhumé le cadavre de Charles de Gaulle, mêlé à toutes les entourloupes électoralistes. Comme d'habitude, on a assaisonné tout ça de lumière, du Voltaire, du Rousseau. Même Gavroche a été convoqué au grand bal de l'Esbrouf, petit pygmée perdu qui a dû longtemps chercher les cartouches entre les Weston et les Louboutins du 16e arrondissement. Comme d'habitude, lorsqu'il s'agit d'oublier un homme et ses dérives, on soulève la grandeur d'un pays, on tente d'estomper les ardoises à grandes louches de drapeaux tricolores. Rien n'est trop gros. Le soir même, à 20h, notre scapin en Loden a même poussé le vice jusqu'à fantasmer une annonce de suicide de sa femme par une chaîne de télévision. La comparaison s'arrête là. Sous ce décor, sous ces personnages en noyade perpétuelle, sous ces heures de direct en carton-pâte, il y a des débats qu'on enterre, des misères inaudibles, des travailleurs sans voix, des réponses absentes aux colères légitimes. Les comédiens mentent pour la bonne cause. Le politique acculé ne ment que pour la mauvaise. Alors, tant que les idées seront absentes, tant que l'essentiel sera couvert d'une soupe abjecte, faites comme moi, allez au théâtre.
On va passer au versant manifestation anticorruption, puisque dans le sillage de l'affaire Fillon, le mouvement anticorruption se poursuit en France.
Sans transition.
Après un premier rassemblement le 19 février, le mouvement qui se réclame, ouvrez les guillemets, citoyen pacifiste déclaré donc, non partisan, non rémunéré par un parti ou une organisation égalitaire et revendicatif, a réuni un millier de personnes ce dimanche, place de la République à Paris. Dans la foule, beaucoup ont ponctué les interventions des orateurs, parmi lesquels l'essayiste télégénique Raphaël Glucksmann en tapant sur des casseroles avec des cuillères en bois. Oui, oui. Oui, la corruption, c'est pas bien. Mais ce que pourrait sous-entendre cette mobilisation citoyenne, c'est que la corruption est le cancer de notre démocratie qui discrédite notre classe politique. C'est oublié, avec plus ou moins de mauvaise foi, que quand bien même tous ces parlementaires, ces millionnaires et milliardaires fraudeurs seraient blancs comme neige, le capitalisme qui permet aux uns d'exploiter les autres, le système parlementaire qui voit les dominés élire leurs bourreaux, tout ça c'est déjà de la triche. C'est comme s'indigner devant le trafic illégal d'esclaves plutôt que de combattre l'esclavage. C'est comme se scandaliser d'une matraque introduite dans un anus sans contester le fonctionnement structurel de la police. C'est comme affirmer que Théodore Luaka était un bon garçon sans histoire pour dénoncer l'odieuse injustice. C'est aussi oublier que Bernard Tapie est en liberté, n'a encore rien remboursé des 404 millions d'euros détournés et habite toujours ses résidences principales et secondaires. Penser que dans le domaine des affaires, comme dans la police, il y aurait des brebis galeuses, c'est individualiser le crime. Mettre l'accent sur les mauvais éléments pour excuser le système qui, sans ces corrompus, serait juste bon. Pour le dictionnaire, la corruption, c'est, j'ouvre le guillemet, l'action de changer l'état naturel d'une chose en la rendant mauvaise. Lutter contre la corruption, c'est donc défendre un état naturel des choses qui, dans le cas présent, n'a rien de naturel et n'est que la domination, exploitation, impérialisme, discrimination. c'est de fait faire le jeu de l'oppresseur organisé qui pille les richesses de ses colonies, qui assassine les populations sans même avoir besoin de tricher.
Ça, c'est bien dit.
Ça, c'est bien dit.
Alors, dans la catégorie domination millénaire, eh bien, après que le parquet de Paris ait ouvert le 10 mai 2016 une enquête préliminaire à l'encontre du député écologiste Denis Baupin pour agression et harcèlement sexuel, il l'a classé sans suite, respectant ainsi ses fameux délais de prescription, en l'occurrence 3 ans pour les agressions sexuelles et le harcèlement sexuel. Alors, Monseigneur Emmanuel Pierrat, avocat de la gente masculine, de sa fraction la plus machiste, les Destins, les Strauss-Kahn, les Berlusconi, à savoir les hommes politiques, se réjouit de la lumière faite sur cette affaire, ignorant la replace du parquet qui, devant le tollé que son communiqué de presse a suscité, précise quand même qu'il apparaît que les faits dénoncés au terme de déclarations mesurées, constantes et corroborées par des témoignages, sont, pour certains d'entre eux, susceptibles d'être qualifiés pénalement. Ils sont cependant prescrits. Et donc impunis. Les victimes courageuses qui ont dénoncé ces agressions, dont 3 élus de la République, se félicitent du bruit et de la relance du débat sur la domination masculine dans le monde politique. On évoque rapidement l'aberration de ces temps si courts et basta. C'est vrai qu'on est à 2 jours de la journée dédiée aux droits des femmes, laissant les 364 autres aux droits de la prescription et de l'homme. Alors que dire de cette séquence où des femmes de pouvoir osent briser le tabou du pouvoir sans pourtant obtenir de condamnation ? Que dire, à part qu'encore une fois, la justice des hommes protège l'ordre patriarcal. Certes, l'agresseur sexuel, Baupin, a démissionné de certains postes et renonce aux prochaines législatives. Mais quoi ? La parole des femmes a été remise en question systématiquement. Il aura fallu qu'elles soient députées et qu'une enquête minutieuse pour qu'on accepte enfin la véracité de leurs propos. Et alors ? Derrière le constat malheureux qui est systématiquement fait lors des sujets médiatiques sur le viol, par exemple, où l'on déplore que peu de femmes les dénoncent et portent plainte, mais comment s'en étonner ? Comment s'en étonner quand on voit la disproportion entre les peines prononcées par la soi-disant justice et l'infamie que les victimes doivent traverser, ne serait-ce pour qu'on accorde du crédit à leur témoignage ? Comment ne pas comprendre le peu de confiance que les femmes font à la justice et à la culture du viol ?
Bah, et d'autant plus celles qui sont prolétaires et qui ne sont pas protégées par leur classe sociale, et là en l'occurrence leur classe politique.
Maintenant revenons à Calais dans le Nord, où ça sent bon, ça fleure bon les années 40. Effectivement, la maire de Calais prend un arrêté interdisant la distribution de repas aux migrants. Effectivement, le 2 mars, un arrêté a été signé interdisant la distribution de repas pour empêcher de nouveaux points de fixation sur Calais, comme le cite la maire Natacha Bouchard. Alors, tout ça sous la houlette et l'accord du bienveillante de Bruno Leroux, ministre de l'Intérieur. En fait, cette interdiction est fondée sur l'interdiction de regroupement suite à notre état d'urgence qui devient peu à peu permanent. Juste un petit rappel, état d'urgence qui est prolongé jusqu'au 21 mai.
Et pour rappel, Bouchard, la sénatrice maire de Calais, est aussi responsable de la loi anti-squat de l'année dernière. Donc c'est vraiment pas une alliée, c'est une ennemie à tout point de vue.
Même pour les aveugles.
Et on passe du coup à l'actualité locale. Vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios.
Alors s'il est vrai que les professeurs se gargarisent d'une certaine légitimité à apprendre la vie aux autres, et s'il est vrai que depuis environ 150 ans, ils ne sont pas le fer de lance des revendications démocratiques et sociales dans notre pays, il apparaît que dans...
Ça non, et vous êtes quelques-uns dans le studio à le savoir.
Il apparaît que une petite grève à Vénissieux au collège Elsa Triolet, qui a déjà fait parler de lui en sabotant le passage de Nadiat Vallaud-Belkacem lors d'un projet d'ubérisation de l'enseignement, s'est encore une fois mobilisé, cette fois-ci contre la précarité dans l'éducation nationale et d'une manière plus précise pour la contractualisation d'une collègue secrétaire de direction qui, après avoir effectué 5 ans en CACUI, eh bien, se voit remerciée sans indemnité, sans rien, comme un mouchoir sale qu'on jette. Alors cette mobilisation qui est assez suivie
Il y a officiellement 55% des personnels qui sont en grève, mais concrètement, ça veut dire 80%. Et ont été reçus à 17h par le rectorat. Évidemment, ça n'a pas donné suite. Et partent en reconductible, à moins qu'ils aient satisfaction de leur revendication, le 30 mars. Alors, cette grève qui va partir en reconductible, et à tous les amis professeurs qui nous écoutent, elle peut être symbolique, parce que la revendication de lutter contre la précarisation de nos métiers, elle peut être reprise à un niveau national. Et cette reconductible qui s'annonce dure, qui s'annonce combative, eh bien, les personnels du dit collège Elsa Triolet à Vénissieux espèrent qu'elle sera soutenue et que chacun se souviendra que, merde, il y en a marre.
D'autant que s'il y avait une victoire sur une contractualisation de la collègue en question, ça ferait jurisprudence et ça serait une première, parce que le recours à ces contrats extrêmement précaires par l'éducation nationale depuis 5 ou 6 ans commence à se systématiser de manière extrêmement inquiétante, et que le fait de pouvoir casser une...
C'est logique.
Et exactement, ça serait une vraie première là, donc ça serait une belle victoire.
Mais pour continuer sur le local et pour conclure, en fait, on a eu le droit quand même, on a appris récemment une très grande lâcheté de notre cher maire, président de commune, enfin, il y a une vingtaine de mandats différents. Et en fait, Gérard Collomb n'a simplement pas, toujours pas soutenu officiellement Macron. En fait, il a toujours pas déposé sa candidature, son truc de soutien.
Bon, mais il l'a soutenu dans un communiqué.
Dans un communiqué, mais c'est ça qui est génial, c'est quand même son dauphin politique. Mais en fait,
il a jusqu'au 17.
Mais enfin, en attendant, ce grand lâche, en fait, se cache et attend, ayant peur de se faire jeter du PS et en fait de disparaître totalement, pour l'instant, alors qu'un certain nombre de personnes, un certain nombre de ces sous-fifres, en tout cas, ont commencé à donner leur voix, et lui, on attend toujours.
Ça viendra.
On est impatients, d'ailleurs.
Sachant qu'il était présent pendant le meeting de Macron à Lyon.
Ouais, je...
Bon, macaroni, c'est fini.
Bien, bien. On va passer à notre dossier de ce soir. Qui est consacré à l'industrie de l'armement, la vente d'armes, les transferts.
Aux emplois, quoi.
Et on écoute tout de suite les Doors, The Unknown Soldier.
Wait until the war is over and we're both a little older. The Unknown Soldier. Breakfast where the new is real, television, children fed, unborn living, living dead, bullet strikes the helmet's head, and it's all for the unknown soldier, nestled in your hollow shoulder, the unknown soldier. It's all over. Oh,
Et vous êtes toujours sur Radio Canu.
La plus rebelle des radios.
Et c'est le Canu Info du lundi. Et là, c'était les Doors, The Unknown Soldier. Et tout de suite, on va parler de l'armement. Donc, pour introduire un peu le dossier, on va commencer par quelques données donc, autour de cette question. Alors, à la fois à l'échelle internationale, mais en s'intéressant plus particulièrement à la place de la France sur le marché de la mort. Donc, wow, tu fais bien la mort. Donc, le 20 février dernier, le CIPRI, l'Institut de Recherche Internationale sur la Paix de Stockholm, a rendu son rapport sur les transferts d'armement dans le monde. Donc, résultat, sur les 5 dernières années, on n'avait pas connu autant de ventes d'armes depuis la fin de la guerre froide. Donc, en gros, ça représente plus de 1600 milliards de dollars par an, soit plus de 2% du PNB mondial. Côté acheteur, ce sont surtout les pays d'Asie et du Golfe qui importent, avec l'Inde en tête, suivi par l'Arabie Saoudite, qui a plus que triplé ses achats d'armes depuis 2011, à l'instar de nombreux autres pays, notamment le Qatar et le Vietnam. Pour ce qui est du Moyen-Orient, les importations ont quasiment doublé. Et depuis 2016, il y a même un regain, un bon regain de croissance des dépenses militaires en Europe, probablement lié à la menace terroriste qu'on croit bon de combattre un peu partout dans le monde.
Et à l'Allemagne aussi.
L'Europe, ouais. L'Allemagne faisant partie de l'Europe, ça,
ah bon,
ça marche. Eh oui. Côté vendeur, les États-Unis restent le premier État fournisseur d'armes au monde, avec un tiers du marché mondial et la moitié de leur exportation est à destination du Moyen-Orient. Viennent ensuite la Russie, la Chine, la France et l'Allemagne. Sur les deux dernières années, on peut féliciter notre ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, marchand de mort entre tous, car la France rattrape la Russie, donc et se place au niveau du deuxième exportateur mondial. Et donc en 2016, ça représente plus de 20 milliards d'euros. Et entre 2012 et 2016, ça a été multiplié par 4. Donc en mars, le ministre de la Défense devrait annoncer la relance de filières de munitions de petit calibre made in France. Donc ça, c'est Montebourg qui devrait être content. Donc ça va permettre de un peu relancer l'industrie de l'armement française qui est vachement en rate, puisque on va rappeler quelques-uns des gros contrats de ces deux dernières années. J'ai du mal aujourd'hui, donc notamment avec l'Australie, donc 12 sous-marins, un contrat avec l'Inde, 36 rafales, on a aussi vendu 30 hélicoptères au Koweït. On avait déjà vendu un peu avant 24 rafales au Qatar, 24 rafales à l'Égypte, des Mistral, enfin, des super contrats qui reboostent un peu les groupes industriels français, donc EADS, Safran, Dassault. Alors je rappelle, hein, Serge Dassault, sénateur Les Républicains dans la fleur de l'âge, condamné tout récemment à une amende de 2 millions d'euros et 5 ans d'inéligibilité pour blanchiment. Donc blanchiment de fraude fiscale. Donc bon, il va pouvoir finir son mandat de sénateur quand même, puisqu'il fait appel et que l'appel sera vraisemblablement à l'automne prochain. Donc parmi les grands groupes pour l'aéronautique, on a Thales, donc Thales dans lequel Dassault est également actionnaire, Sagem pour l'électronique, la direction des constructions et armes navales, encore Thales pour dans lequel Thales est actionnaire, donc encore Serge Dassault, la MBDA pour les missiles. On a aussi notre lot de fabricants d'armes pour le maintien de l'ordre. Donc là, il y en a des centaines sur le territoire. Donc par exemple, comme Vernet Caron à Saint-Étienne qui était surnommé Armeville, en raison notamment de cette production. Nobel Sport, par exemple, à Pont-de-Buis, dans le Finistère. Je cite ces deux exemples parce qu'elles ont fait l'objet de mobilisation l'année dernière par notamment le collectif Désarmons la police, qui essaye de lutter contre toutes ces armes du maintien de l'ordre qui font aussi des victimes chez nous, hein, même si, bien sûr, que l'industrie de l'armement en fait bien plus partout ailleurs. Donc, pour revenir justement aux armes de guerre qu'on a l'air de vendre si bien sous la mandature socialiste, hein,
Voilà, Hollande.
Partie de la paix. Donc, comment est-ce qu'on a fait pour atteindre de si beaux sommets dans la vente
comment on a fait ? Comment on a fait ? C'est la victoire de l'équipe France, nous dit Jean-Yves Le Drian. Et puis, l'industrie française de l'armement, elle produit un matériel qui est très performant, qui fait ses preuves tous les jours, notamment dans les guerres du Sahel et du Moyen-Orient.
Tu bien.
Donc, on a bonne réputation. Et puis, comme le
fort à la bagarre.
On est fort à la bagarre, ouais. Comme le précise Olivier Fourde sur RFI, nous, les Français, on ose proposer à l'exportation un matériel militaire que d'autres pays hésitent à vendre, comme des satellites espions ou des missiles de croisière au Moyen-Orient, au risque que ces systèmes hyper sophistiqués prolifèrent dans des régions un petit peu chaudes. On peut aussi expliquer ce succès par nos formidables capacités d'adaptation à la demande. On fait du sur-mesure, on fait des formations. On entraîne même parfois les militaires de nos pays clients, comme on l'a fait notamment pour l'Égypte. L'Égypte, que l'Arabie Saoudite a beaucoup aidé pour acheter nos Mistral, nos Rafales. L'Égypte, qui fait partie de la coalition conduite par l'Arabie Saoudite dans la guerre au Yémen, de même que le Qatar, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, tous faisant partie de nos gros clients récents. Et pourtant, depuis le début de cette guerre au Yémen, on sait que les pays de la coalition contre les rebelles houthis frappent indifféremment les marchés, les écoles, les hôpitaux, tuant des milliers de civils. Les rapports et enquêtes ne manquent pas. Human Rights Watch, Amnesty, Haut Commissariat aux droits de l'homme, etc., etc. Ils font état de crimes de guerre, de violations graves aux droits humanitaires, avec notamment l'utilisation d'armes interdites, comme des armes à sous-munitions. Les ONG ont exhorté les pays fournisseurs d'armes à la coalition, appelant à l'embargo, mais aucune réponse de la part de la France. Voilà, ça fait partie des sujets qu'on va aborder avec notre invité de l'Observatoire de l'Armement. Tony, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Salut.
Merci pour cet accueil.
Bienvenue. Donc avec l'Observatoire, tu travailles beaucoup sur les transferts et l'industrie de l'armement pour aller vers plus de transparence, un meilleur contrôle démocratique. Est-ce que tu peux déjà, pour commencer, nous parler des moyens de contrôle dans la vente d'armement ? Et puis nous dire un petit peu comment la France s'assoit sur ses engagements et contourne les embargos.
Oui, les moyens de contrôle, il n'y en a pas. Ou alors plutôt, les parlementaires ne veulent pas se bouger pour interpeller le gouvernement. Il y a très très peu de parlementaires qui s'intéressent à ce sujet, hormis les Verts, qui sollicitent régulièrement Jean-Yves Le Drian, l'interpellant sur des contrats vers l'Égypte, l'Arabie Saoudite, etc. Mais sinon, c'est une question qui est totalement délaissée. Les parlementaires, mais peut-être aussi c'est à l'image de la société, qui préfère s'occuper des thématiques à terre, ou économique et sociale, ils se délaissent traditionnellement les sujets internationaux, on retrouve le même phénomène au Parlement, où effectivement les bénéfices à court terme des députés en niveau électoral, c'est plus sur les sujets d'emploi ou autres que effectivement sur ces questions de vente d'armes et qui sont considérées comme appartenant à l'exécutif, du simple ressort de l'exécutif. Et du fait, il faut savoir que la décision de vendre une arme est concentrée entre les mains du président de la République et éventuellement du gouvernement, puisque c'est une commission interministérielle qui décide effectivement d'approuver ou non telle exportation d'armes à l'étranger. Et de fait, il n'y a aucun contrôle, sauf si effectivement les parlementaires commencent à se bouger et à poser des questions gênantes à l'Assemblée nationale. Alors ce qu'on demande, nous, effectivement, c'est d'avoir, comme c'est la concentration du pouvoir entre les mains de l'exécutif, qu'il y ait quand même une commission parlementaire qui soit créée, qui permette au moins de... qui ait accès au secret défense et qui permette au moins aux députés de mettre la main dans le cambouis, d'avoir accès à des informations choc, de façon à interpeller le gouvernement. Parce que sinon, il n'y a aucun débat. Il n'y a aucun débat dans la société et il n'y a aucun débat au Parlement. Et quand on sait que les armes françaises, et ce n'est pas arrivé depuis longtemps, sont massivement utilisées au Yémen contre les populations civiles, normalement dans n'importe quel pays, les gens devraient être dans la rue. Il y a des débats très très virulents en Angleterre là-dessus, parce qu'il y a pareil, il y a des armes provenant du Royaume-Uni qui sont pareilles utilisées au Yémen. Il y a beaucoup de débats au Royaume-Uni. Il y a même un juge qui est en charge d'examiner la légalité de ces transferts d'armes-là. Il y a un débat très très important aussi en Allemagne, où les églises, les syndicats sont vent debout, y compris ces ventes d'armes font débat au sein du gouvernement avec Sigmund Gabriel, qui est plus ou moins en retrait, il ne peut pas énormément agir, ou il n'a pas suffisamment de volonté politique pour ça, mais il y a du débat au Canada, il y a eu des débats en Suède, mais il n'y a rien en France. Voilà, donc effectivement, il est temps de se bouger.
Mais y a quand même des embargos internationaux sur certains pays où c'est absolument interdit de leur vendre des armes. Est-ce que au moins là-dessus on arrive à avoir un peu des infos et savoir où est-ce qu'on en est?
Alors c'est une chose très intéressante, la France paye des consultants pour expliquer aux pays d'Afrique comment changer la législation pour respecter les embargos, mais quand on fait une petite étude pour voir comment la France respecte ses sanctions internationales, on s'aperçoit qu'il y a à transférer des armes à la moitié des pays sous embargo actuellement. Et pire, parfois elle contourne la législation. Par exemple, elle met en place un système de production sous licence en Chine, où effectivement elle donne le droit à la Chine de produire de l'ancien matériel français qu'elle ne vend plus, et qui est destiné à des pays comme le Soudan, comme la RDC, qui rencontrent des guerres civiles. Donc on se trouve face à une situation totalement scandaleuse, et on s'est beaucoup battu avec Amnesty International et Survie pour que soit votée une loi qui permette justement à la France de poursuivre les trafiquants d'armes. Tous les gens impliqués dans ces transferts d'armes sous embargo, ça peut être aussi des salariés de sociétés d'armement. On a fait pression pendant 2 ans, et la loi a fini par passer à l'Assemblée nationale en première lecture. Elle a même été étendue, renforcée contre l'avis du gouvernement, c'est-à-dire qu'il y avait possibilité de poursuivre les Français qui sont basés leur activité à l'étranger. Il y a extension de la responsabilité aux sociétés, et un contrôle parlementaire qui a été instauré également, mais ça ne faisait plus au gouvernement, qui a été défait sur son terrain et qui depuis utilise des questions de procédure pour bloquer la loi au Sénat. Du coup, évidemment, la zone grise est instaurée, et puis les trafiquants d'armes peuvent continuer à livrer des armes là où ils le souhaitent. Voilà.
Tu parles de la loi sur la violation des embargos. C'est une loi qui traîne depuis combien de temps ?
10 ans.
Ouais, c'est ça.
10 ans. Ouais. 10 ans.
Et est-ce qu'elle a fini par être adoptée au final ?
Ah bah non, pas du tout. Toujours pas. Elle est toujours bloquée. On refait pression, mais tant qu'il n'y a pas de rapport de force, c'est-à-dire au bout d'un moment, les parlementaires ne suivent pas, ils se bougent pas comme ça. Hein. Bon, comme tous les sujets. Il faut une mobilisation sociale d'en bas, il faut des interpellations, il faut une indignation, des manifestations pour créer un rapport de force. Et ce rapport, on l'a pas. Ce rapport de force, on l'a pas sur ce sujet.
Il y a un truc aussi, pardon, c'est il y a un traité sur le commerce des armes aussi qui est censé un peu réguler tout ça et bloquer certains pays l'accès d'armes, quoi.
Bah, c'est du bullshit, dans la mesure où le traité sur le commerce des armes repose sur l'autorégulation des États eux-mêmes. C'est à eux d'évaluer effectivement si tel transfert risque de violer les droits de l'homme ou non, et à partir de là, c'est à eux de décider s'ils vont livrer les armes ou non. Alors, vous avez par exemple une conférence de révision du traité qui a eu lieu à Genève, et les États n'ont pas voulu aborder la question du Yémen, alors qu'ils délivraient tous des armes qui étaient utilisées contre les populations civiles à ce moment-là. Après, ça en fait un outil sur lequel les ONG peuvent se fonder pour mener leur combat. Mais en tant qu'instrument de régulation des contrôles, ça ne fonctionne absolument pas du tout. Parce qu'une régulation fonctionne avec des parties égales qui peuvent négocier et trouver un compromis. Mais on n'est pas du tout dans ce cadre-là dans les transferts d'armes, puisqu'il y a les cinq pays principaux exportateurs d'armes concentrent 80% du marché d'armement.
Et c'est effectivement des pays qui ont une politique autour de leur souveraineté et de l'ingérence à l'étranger qui est extrêmement forte, et qui en plus ont des intérêts économiques hyper importants dans ces guerres-là.
Parce que la question, c'est ça qu'on te pose en fait, c'est est-ce que d'un côté on a un État français qui déplore le trafic d'armes, ou est-ce que ça fait partie intégrante de sa politique étrangère ?
Ah mais ça fait partie intégrante de sa politique étrangère.
Bonne réponse.
Mais non, mais attendez, vous avez plusieurs sociétés françaises, Acma Défense, Robert Montoya, qui sont épinglés depuis des années dans un rapport de l'ONU pour de multiples violations de l'embargo entre 2006 et 2013, embargo sur la Côte d'Ivoire, et ces sociétés étaient à 2 pas du ministère de la Défense, au salon de l'armement Eurosatory l'année dernière.
Donc si on te suit, les politiques de contrôle, c'est de la poudre aux yeux qui vise à légitimer finalement une politique résolument militariste et...
Je n'irais pas jusqu'à dire ça, mais il est évident que sans instaurer de rapport de force, on ne va jamais arriver effectivement à pouvoir changer durablement la politique de la France. Puis ça reste une question politique. À partir du moment où il y a des emplois, à partir du moment où la politique de la France à l'international, d'utiliser le réseau diplomatique pour vendre des armes, tout comme effectivement défendre les intérêts de la France sur le plan économique, on ne s'en sort pas. C'est à partir du moment où il n'y a pas ce débat au sein de la société française sur l'aggravation des crises, est-ce qu'on doit gagner ? Est-ce qu'on est vainqueur, effectivement, de l'aggravation des crises au Yémen, au Syrie, en termes de réfugiés, etc. C'est une question que, effectivement, les gens doivent se poser.
Et la question qu'ils doivent se poser, c'est est-ce qu'on a intérêt à l'impérialisme militaire ou est-ce que il faut combattre l'impérialisme militaire?
Ah ben non, mais de toute façon c'est évident qu'il faut le combattre en termes de valeurs. Mais après la question c'est que les gens n'ont pas résolu peut-être une partie de leur contradiction, parce que si effectivement on veut lutter contre les ventes d'armes, il faut revoir le modèle de développement en France. On peut pas continuer effectivement avec des politiques prédatrices à l'étranger tout en défendant par exemple des mesures comme je sais pas les revenus à 2000 euros par exemple. Je pense que c'est le modèle de développement de la France qui est prédateur en ressources. Et ça, c'est une contradiction qu'il faut résoudre, pas uniquement au niveau politique, mais au niveau citoyen. Et on le fait trop rarement.
Et tu disais tout à l'heure que le Parlement, enfin que les États en fait étaient souverains sur la question, donc du coup que le Parlement européen n'est pas compétent en la matière. Par contre, la Commission européenne a fait voter un programme qui vise en fait au subventionnement de ces industries-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu
Oui, on assiste à un processus inquiétant de libéralisation du commerce des armes qui est promu par l'Union européenne. La Commission européenne a décidé d'investir 3 milliards d'euros à partir de 2020 dans des programmes de recherche militaire, à la fois sur les drones, sur les questions de recherche militaire. Et c'est particulièrement inquiétant dans la mesure où le Parlement européen est évidemment pas compétent en matière de défense, donc il peut pas vérifier l'emploi de ces fonds. Il vote juste le budget en fait, et du coup on se retrouve, et c'est la première fois que ça arrive, et ça, effectivement on arrive à un processus extrêmement inquiétant où non seulement c'est des budgets qui sont pas utilisés évidemment pour le secteur social mais au nom d'objectifs militaires, la guerre contre le terrorisme, donc il y aura pas d'augmentation du budget de l'Union européenne de toute façon, donc il y aura des coupes au niveau social, et puis d'autre part on assiste à un transfert de souveraineté. Effectivement, la question de la recherche et de l'exportation d'armes avant était décidée au niveau des États, et là on sent un transfert vers l'Union européenne qui a de plus en plus son mot à dire là-dessus. Donc c'est très inquiétant parce qu'on n'a pas de relation directe avec les gens qui sont au niveau
des bureaucrates de Bruxelles.
Ça fait peur. Ouais. Juste, je voulais te demander un truc, parce qu'il y a un autre truc qui fait vraiment peur, moi je trouve, c'est la course à l'automatisation des armes. Et on entend parler de robots tueurs.
Ouais.
Je crois que vous êtes sur le point de publier un rapport avec l'Observatoire à ce sujet. Est-ce que tu peux nous dire juste un mot, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on va vers une interdiction de ce type d'armes ultra dangereuses, comme d'autres armes ont pu être interdites dans le passé, même si on sait que ces interdictions, elles ont leurs limites? Est-ce que tu peux nous...
On est sur un double discours. Alors il faut savoir, au niveau de l'armement, on est vers la course vers l'automatisation des fonctions. On le voit avec le drone. Le drone peut permettre de cibler automatiquement une personne. Et aujourd'hui, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est à la fois une appréciation automatique de la situation par le robot, et aussi que ce robot prenne en charge la décision de tirer. Et ça, les robots tueurs existent déjà. Vous avez Dogo, le robot le plus puissant qui est détenu par l'armée israélienne, robot qui a l'allure d'un véhicule télécommandé, 6 caméras virevoltantes, capable de traverser les murs et de repérer n'importe qui à partir d'un petit détail du corps, à partir de senseurs, il va détecter ton poids, qui tu es à partir de ton poids, ta taille, une balafre, et va pouvoir décider de tirer lui-même, et il va aussi également capter chaque départ de balle, chaque explosion, de façon à réagir instantanément, autant dire qu'on m'a confirmé l'information selon laquelle, évidemment, Dogo est plus fort qu'un homme du raid et qui fait toutes les technologies de pointe. Donc les robots hyper dangereux existent déjà, mais ce qui est en préparation pour 2030, c'est les robots bombardiers tueurs, une sorte de Rafale meets Terminator, d'une certaine façon, et qui sont amenés à remplacer le Rafale, et sont destinés bien sûr à des assassinats ciblés, à s'infiltrer en territoire ennemi pour aller rencontrer une cible et puis l'éliminer, et évidemment va servir aussi à ouvrir le champ, comme le champ de bataille, un peu comme le Rafale, c'est-à-dire à neutraliser les défenses aériennes, à être furtif, à décoller de la même façon qu'une navette spatiale, c'est-à-dire très très vite, de façon à venir et repartir d'un point à l'autre très très rapidement sans être détecté, et évidemment comme ce robot va être destiné pour de longues missions d'infiltration au territoire ennemis, eh ben, il y a tout intérêt à ce que ces fonctions soient automatisées et qu'il, évidemment, il repère les cibles et qu'il puisse lui-même prendre la décision de tirer. Alors là où se situent les recherches, c'est pas en termes de dangerosité, parce que les robots, on sait qu'ils vont être absolument dangereux. Il suffit de trafiquer une carte comme celle que vous trouvez dans votre micro-ondes qui détecte la texture des aliments et puisse mesurer le temps de cuisson. Ces cartes-là suffisent à faire dogo, vous voyez. Mais par contre, pour des robots qui s'infiltrent en longue distance et qui puissent, pour des missions à longue distance et qui puissent faire à la fois du renseignement, à la fois détecter une cible et l'abattre, tout ça sur une période peut-être d'un ou deux jours, eh ben, ça nécessite une intelligence artificielle et on n'est pas tout à fait au point là-dessus. Et également au niveau des batteries qui ne sont pas capables aujourd'hui de gérer cette intelligence artificielle-là, mais ça risque d'arriver très très vite et c'est très inquiétant.
Du coup, c'est encore temps de stopper la recherche et le développement.
Oui, voilà, c'est pour ça qu'on se mobilise là-dessus. On espère qu'il va y avoir un traité international sur le sujet, mais le problème, c'est qu'il y a une prolifération des technologies, des nanotechnologies qui sont à la source de ces robots, où parce que c'est à la fois à servir aussi ou dans le civil, hein, la robotisation, c'est un phénomène de société.
Et en lien avec la génétique et le marquage radioactif aussi.
Oui, voilà, enfin, c'est un processus global, et pour l'arrêter, ben, il va falloir se bouger, parce que là, on est mal.
Voilà. Et du coup, comme on touche à la fin de l'émission, où est-ce qu'on peut trouver notamment le rapport qui devrait sortir et plus d'infos?
Sur notre site, je pense qu'on va le diffuser sur notre site, hein, dès qu'il sera sorti.
J'ai bien envie de citer aussi une carte qui est intéressante, ouais, sur les embargos et les violations, notamment des embargos, sur Vision Carto, un boulot que tu as fait avec eux, qui est assez facilement trouvable sur le web.
Et merci beaucoup de ta venue pendant ton explication.
Ben, merci à vous.
Tu pourras nous rappeler un petit peu tout qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais.
Ah, c'est vrai qu'on n'a pas fait de présentation.
Ouais. Ouais,
alors,
faire ça très formellement.
Ouais, alors moi je travaille à l'Observatoire des armements, qui est un centre fondé il y a 30 ans par des objecteurs de conscience qui sont
dit, c'est à Saint-Just,
ouais, et qui se sont dit ça suffit pas de réunir notre documentation, il faut maintenant ça suffit pas d'être contre la guerre, il faut aussi qu'on réunisse notre documentation, qu'on fasse des études un peu indépendantes sur le sujet, parce qu'à chaque fois c'est des think tanks qui sont proches de l'État et pas au service du citoyen, donc on puisse avoir des infos là-dessus de façon à se mobiliser contre les ventes d'armes et aussi contre les armes nucléaires. On a beaucoup bossé notamment sur les conséquences des essais nucléaires contre les populations polynésiennes et algériennes, voilà, les tests nucléaires français.
Donc l'Observatoire de l'armement.
Désarmement.
L'Observatoire des armements.
Et obsarm.org, le site.
Eh bien, merci beaucoup. Du coup, on passe tout de suite à l'agenda. Donc, c'est bientôt le 8 mars, donc la journée internationale des femmes. Donc, ça sera l'occasion pour nous de faire la grève, puisque à partir de 15h40, il y a un appel à la grève qui pourra être suivi par tout le monde, hein, puisque les trois centrales syndicales appellent à la grève. Donc, dans le privé, il n'y a pas de souci pour faire grève, et de la même manière, dans la fonction publique, tout le monde est couvert pour faire grève. Alors 15h40, pourquoi? Parce que c'est l'heure à laquelle les femmes arrêtent d'être payées chaque jour, si on compare le salaire qu'elles ont chaque année comparé aux hommes.
20%.
Donc l'appel, en fait, il fait suite à un appel de féministes argentines qui s'étaient mobilisées notamment en octobre contre les violences faites aux femmes et ainsi que pour le droit à l'avortement. Elles avaient donc publié un appel, donc je vais vous lire rapidement, donc un appel internationaliste pour dénoncer que le capital exploite nos économies informelles, précaires et intermittentes, que les États-nations et le marché nous exploitent quand ils nous endettent, que les États criminalisent nos mouvements migratoires, que nous gagnons moins que les hommes et que la différence de salaire atteint en moyenne 27%, qu'il ne soit pas reconnu que le travail domestique et de soins est un travail qui n'est pas rémunéré et qui rajoute au moins 3 heures à nos journées de travail. C'est ce qu'on appelle la double journée de travail. Que cette violence économique augmente notre vulnérabilité face à la violence machiste dont l'acte extrême est le féminicide. Nous faisons grève pour réclamer le libre droit à l'avortement et pour qu'aucune ne soit obligée à la maternité. Nous faisons grève pour rendre visible le fait que tant que le travail de soins ne sera pas une responsabilité de toute la société, nous serons obligés de reproduire l'exploitation de classe et coloniale en